Bonsoir à tous, bienvenue dans Hors Piste, l'émission qui commence là où l'actualité s'arrête. Vous avez sans doute entendu parler de cinéma ce week-end avec les Césars. Eh bien sans lui, l'affiche aurait sans doute été un peu vide, tant il fait et défait le 7e art français depuis des décennies. Il est sans doute le découvreur en chef de talents de notre cinéma, surtout des femmes d'ailleurs, hein, Nathalie Baye, Béatrice Dalle, Isabelle Adjani, Emmanuel Béart, Juliette Binoche et tant d'autres encore qui lui doivent leur carrière. Agent, confident de stars, organisateur de festivals à Angoulême, comédien parfois passionné toujours, il est aussi l'homme avec lequel il ne faut surtout pas se fâcher. Il a un style, il a un phrasé, il a un caractère. Ce soir, Dominique Besnéard est dans Hors Piste.
Hors Piste. Thomas Soto sur France Inter.
Vos noms, prénoms, âge et qualité.
Alors Dominique Besnéard, j'ai 26 ans, ben, je fais du casting, alors je ne sais pas trop si les gens savent ce que ça veut dire.
Vous pouvez expliquer ce qu'est le casting?
Ben, je cherche les têtes pour les films.
Alors, tu t'appelles Emmanuel Béart?
Oui, Emmanuel Béart.
Tu as quel âge?
20 ans.
Et tu mesures?
1m67.
Mmh. Alors maintenant, ce qui serait bien, c'est que tu dégages tes cheveux comme ça, voilà. Même cette espèce de petite queue de cheval, là, tu la relèves.
Tu veux que je la relève?
Oui, comme ça, donc tu l'enlèves presque, voilà, comme ça, voilà, c'est très beau ça aussi. Balaye ton regard de la droite, voilà. Comme ça, c'est très bien.
Les tout premiers essais de Béatrice Dalle, filmés par Dominique Besnéard, découvreur de talents professionnels, mais vidéaste amateur.
T'as eu envie d'être comédienne à partir de quel âge? T'as toujours eu envie
Mais je suis comédienne, j'ai pas envie de le devenir.
Ouais.
Vous savez, vous n'êtes pas le premier, je ne voudrais pas vous faire de peine. Hein. Ma sœur est volage, elle a un cœur d'artichaut. Pour le moment, c'est vous avez une jolie petite frémousse, et puis on ne sait pas, dans quelques mois, ça sera un autre.
Je me présente.
Rare.
Je suis l'attachée de presse, Odile Duret. Donc vous prenez un dossier, et si vous manquez des renseignements, vous pouvez toujours me joindre au Martinez. Hein?
Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde.
Mais ça mérite une deuxième vision, rappelez-moi. Hein.
Madame, je vous pisse à l'arrêt.
De Ray, Odile De Ray. De toute façon, c'est moi qui vous rappelle.
César est attribué à Annie Girardot dans Les Misérables.
Je ne sais pas si j'ai manqué au cinéma français, mais à moi, le cinéma français a manqué. Follement. Éperdument. Douloureusement. Votre témoignage, votre amour me font penser que peut-être, je dis bien peut-être, je ne suis pas encore tout à fait morte.
Bon, qu'est-ce qui se passe?
Il se passe que dans le scénario, il y a écrit « Il l'enlace passionnément, pas il la jette violemment dans les buissons ».
T'es en cristal ou quoi?
Non, c'est pas possible. C'est de l'aristocrate, il est domestique, donc elle l'intimide, il la respecte.
Tu vas arrêter de te prendre la tête, ouais?
Pardon, mais moi je me prends pas la tête, je travaille, d'accord? Est-ce qu'on peut avoir un petit peu de pudeur, d'élégance, de d'esprit dans cette scène?
C'est pour moi que tu dis ça? Bon, moi je suis saoulé là.
Moi aussi.
C'est ça, ouais. Retourne faire la belle dans tes dîners mondains.
Pardon, articule. Comprends pas ce que tu dis.
Connasse.
Connard.
Non, c'est pas possible. Tu appelles leurs agents immédiatement.
And the International Emmy for Comedy goes to... Call my agent.
Accepting for the program are producers Harold Valentin and Dominique Besnéard.
Have you learned your text?
J'ai pas eu le temps, monsieur.
Très mauvais prétexte.
On ne fait pas ce qu'on veut.
Petite romanesque.
Ça vous amuse, monsieur?
Un petit peu. of your lonely song.
J'ai pas eu envie, monsieur.
Tell me what is wrong.
Tout va pour le mieux, monsieur.
On se moque du monde.
Ça c'est pas vrai, monsieur.
Oui, un petit peu.
Je pense à vous, c'est entre bleu et blue.
Dream. Ah, il se demande qui c'est. Bonsoir
c'est
et bienvenue
d'Orpiste.
Absolument. Bienvenue d'Orpiste, Dominique Besnéa.
Bonjour.
Sophie Marceau qui chante Dream in Blue avec François Valéry.
Ouais, c'est ça. Mais vous savez que François Valéry. Elle l'a toujours soutenue parce que quand j'étais agent, François Valéry a eu un moment très important au début, puis après il a eu des problèmes de carrière. Et elle a toujours été très gentille avec lui. Elle me dit oui, il faut bien lui parler. Donc elle avait beaucoup d'amitié pour lui.
Elle est fidèle, Sophie ouais. Marceau.
Oui, parce que je crois qu'elle l'a connue très jeune et voilà. Ouais.
Mais en même temps, c'est celle qui vous a dit non. Hein, je disais tout à l'heure dans le portrait, faut pas lui dire non à Dominique Besnéa. Mais elle veut pas jouer dans 10%. Pourquoi ?
Il y a pas qu'elle. Il y a aussi Catherine Deneuve. Pourtant, je les aime bien l'une. Sophie Marceau, je la comprends parce que depuis l'âge de 13 ans, elle appartient aux Français. Voilà, et que en plus, quand on lui a proposé la première saison, c'était une période un peu difficile. Sans être indiscret, sa maman était très malade. Et elle n'avait pas envie d'avoir son nom, voilà, elle me l'a dit, mais elle a toujours été très claire, comme Deneuve du reste. Deneuve aussi, elles m'ont appelé pour dire, voilà, nous on aime la série, mais on n'a pas envie de jouer, d'être appelé Deneuve ou Sophie Marceau.
Peut-être que vous avez renoncé pour ces deux-là ? Ça vous ressemble pas, ça ?
Oui, mais à un moment donné, je ne veux pas non plus obliger les gens s'ils n'ont pas envie. Hein. Ouais. La preuve, c'est que bon, il y en a d'autres qui ont accepté, pas n'importe lesquels, puisque Isabelle Adjani, Isabelle Huppert, Nathalie Baye ont accepté. Mais alors, je rectifie quand même, la carrière de Adjani, elle n'a pas eu besoin de moi, ni Nathalie Baye. Hein. Ouais. Elles étaient déjà très célèbres quand je me suis occupé d'elles. Mais c'est vrai que, en tout cas, avec Nathalie et Isabelle, on a eu une relation très forte. Moi, je suis venu un peu tard avec Isabelle. Moi, je l'ai connue très jeune. Quand je faisais de la figuration à la Comédie Française, elle était une jeune pensionnaire. Mais je me suis occupé d'elle à la fin, quand j'étais agent. Et après, elle a eu beaucoup d'agents, Isabelle. Hein. Oui. Tandis que Nathalie Baye, on a eu que deux, trois maintenant. Et avec moi, nous sommes restés 20 ans ensemble.
Bon, on parle d'Isabelle, de Nathalie, de Sophie. Mais on va parler de vous, Dominique Besnéa. D'ailleurs, Dominique, comment ? Parce que moi, j'ai toujours entendu dire Besnéa. Et là, on vous a entendu vous présenter Bénéard.
Parce qu'on dit plutôt Bénéard en Normandie, mais moi je voulais me différencier de ma famille, parce que je me sentais un peu trublion, et Bénéard c'est vraiment un peu normand. Alors Besnéard, bah, j'ai mis un... Parce que des gens aussi qui l'appelaient Besnéard, ça fait plus chic.
C'est une petite coquetterie alors.
Voilà. Oh,
d'accord. Vous êtes assez difficile à résumer. Si vous deviez vous présenter, tenez tiens, je vous fais passer un casting, présentez-vous.
Ben, je m'appelle Dominique Besnéa et pas Bénéa. Et je suis de quelqu'un d'assez passionné, un peu bordélique et en même temps assez fidèle en amitié. Et puis surtout, ben, je suis heureux de me réveiller tous les matins en faisant ce que j'aime. Mm-hmm. Et c'est déjà quelque chose de formidable, un privilège. J'ai quand même eu toujours... fait ce que j'avais envie de faire. Et surtout, j'ai peut-être une qualité qui peut être un défaut, et vous l'avez remarqué, mais je ne lâche jamais rien. Voilà.
Ouais, ouais, ouais. Alors, le film de Dominique Besnéa, il a débuté à Bois-Colombes, hein, lors du très rigoureux hiver 54. Et puis très vite, vous êtes parti en Normandie, vous avez grandi. À ce moment-là, il y avait quand même loin des prairies normandes aux marges de Cannes. Vous venez de quel milieu ?
Mes parents étaient des petits commerçants, qui étaient d'abord normands. Ils sont venus à Bois-Colombes pour travailler. Mon père était boulanger au départ. En fait, il a eu un problème à l'œil, donc il a dû, à cause de la farine, donc il a dû changer d'activité. Ils ont ouvert une crèmerie épicerie à Bois-Colombes, et où on est né avec mon frère jumeau. Et j'avais une sœur de 7 ans avant moi. Et puis à un moment donné, j'ai voulu revenir en Normandie. Et nous sommes arrivés à Houlgate en 59-60, je sais jamais vraiment quand. Et donc ils sont arrivés, on est restés, enfin eux ils sont restés très longtemps, et moi je suis parti en 73, donc je suis resté 13 ans à Houlgate.
Et vous y retournez souvent, hein?
Ben maintenant, j'ai détesté Houlgate pendant mon adolescence, et parce que je trouvais que je comprenais pas ce que je faisais là. Je trouvais que Houlgate c'était très agréable l'été, mais l'hiver était d'une tristesse totale, parce que à l'époque il y avait pas les RTT, les villas, tout, c'était terrible, c'était un no man's land, on se promenait, on voyait que le sable, le vent et les villas fermées. Et pour un gamin, alors donc moi je me suis réfugié devant la télévision, où il y avait que deux chaînes, et en fin de compte, donc j'ai un souvenir assez terrible. Et l'été, ben mes parents travaillaient, donc on nous mettait en colonie de vacances, on allait chez nos grands-parents. Donc Houlgate, pour moi, l'été, c'était pas le sable et le casino. C'est pour ça que j'ai fait un premier livre qui s'appelait Casino d'hiver, parce que je voyais le casino que l'hiver.
Et à ce moment-là, le cinéma, ça représentait quoi? C'était votre fenêtre sur le rêve? C'était quoi pour le petit bonhomme que vous étiez?
Ça a d'abord été la télévision. Donc moi, j'étais très nourri par la télévision de l'époque. L'ORTF, les grandes dramatiques, on appelait ça les dramatiques, les feuilletons et pas du tout les séries et les voilà. Et donc comme j'avais pas envie trop de faire de sport, donc je regardais la télévision, j'étais abonné à Télé 7 jours et je faisais des fiches sur les acteurs.
Ah, vous faites des fiches? Oui. Vous étiez du genre à faire des fiches, à mettre des posters sur les murs de votre chambre?
Non, pas des posters, parce que si, peut-être des posters de Sylvie Vartan que j'aimais beaucoup, mais bon, j'avais des cahiers, de vrai, je les ai toujours, où j'avais, par exemple, l'Espagnol de Jean Prat, avec la distribution, je donnais des notes. Et un jour, quand j'ai fait mon livre Casino d'hiver avec Jean-Pierre Lavagna, je lui ai montré toutes les notes faites sur les... Il en revenait pas. Et par exemple, je faisais sur les spectacles que j'allais voir, et j'ai mis Nathalie Baye doit faire des progrès.
Vous avez quel âge à ce moment-là?
Ben là, j'avais, je devais avoir 15 ans, voilà. Ah oui. Et 15, il doit faire des progrès. Je me permettais des choses que personne...
Après, on pas beaucoup changé finalement.
Non, mais je dis pas à Nathalie Baye qu'elle doit faire des progrès. J'aurais pu le dire peut-être à Sylvie Vartan, mais pas à Nathalie Baye. Mais cela dit, c'est vrai que j'étais nourri par cette télévision populaire. Et après, donc j'ai pu aller voir, quand je suis arrivé à Paris, à la Rue Blanche, j'ai été à la Cinémathèque, et c'est là où j'ai découvert la Nouvelle Vague. Mais il y avait aussi le cinéma de minuit, qui était peut-être pas à minuit, le dimanche soir, où j'ai vu aussi tous les classiques, les Duvivier, les Renoir et tout ça.
Vous avez très, très tôt compris que c'était votre chemin.
J'ai tout de suite compris que je ne voulais pas être dans le quotidien de mes parents, parce que mes parents, ils avaient travaillé beaucoup et je les admirais beaucoup. Mais la preuve, c'est que mes parents, nous ont permis, mon frère et moi, de faire ce qu'on voulait, de dire aller au théâtre, alors qu'ils n'avaient pas vraiment une culture, bien que ma mère aurait pu faire des études, mais c'était des enfants de la guerre, 39-40, ils avaient 17-18 ans, donc ils n'ont pas eu de jeunesse. Moi, ma mère, elle a 99 ans. Et quand même, c'est des gens, à chaque fois, je me dis, mais on a eu de la chance. Alors, ils n'ont pas été forcément très aimants de dire, moi, j'ai pas le souvenir que ma mère elle était avec nous, mais elle était digne. Mais surtout, ils voulaient qu'on soit heureux et qu'on fasse ce qu'on a envie de faire.
Il paraît que vous écriviez des lettres à des stars, c'est vrai ça ou pas?
Oui, j'ai écrit la première actrice à qui j'ai écrit, parce que j'avais eu un coup de foudre en voyant Le Capitaine Fracasse avec Jean Marais, et une actrice s'appelait Geneviève Grade, qui était très jolie. Et pour moi, c'était peut-être mon premier émoi amoureux. Je vais avoir, en 63, j'avais 11 ans. Et je l'ai trouvé, j'ai écrit, bien sûr, on m'a jamais répondu. Ouais. Après, j'ai eu vraiment un émoi amoureux, un émoi, parce que c'est devenu une amie, c'est Marlène Jobert. J'étais fou de Marlène Jobert. Et il y avait de quoi, parce que je pense qu'elle a fait, trembler toute la France dans les années 70 quand elle est arrivée.
Mais elle vous a répondu ou pas quand vous lui avez écrit au début?
Oui, non, mais elle dit qu'elle m'a répondu jamais. Ils répondent jamais. Du reste, c'est pour ça que quand j'étais agent, qu'il y avait le courrier des fans, il faut vraiment leur répondre. Ces gens rêvent à travers vous. Alors, Sophie Marceau, elle répond à son courrier. Ouais. Lynn Renaud, elle répond à son courrier. Brialy répondait. Mais les jeunes, ils les regardent même pas, ils ouvrent même pas la plupart.
Et à ce moment-là, vous, Vous rêviez de cinéma, mais d'être à l'affiche? Vous rêviez d'être comédien ou vous rêviez déjà d'être un peu derrière, en grand organisateur?
Écoute, j'étais assez lucide et je me disais... Alors moi, je faisais du théâtre amateur au lycée de Deauville et avant à Wigat. Mais je me disais, non, il y a trop de gens. En même temps, j'ai toujours un... Peut-être c'est pour ça que je suis devenu agent. J'ai toujours un côté quand même... J'avais un fond rationnel. Si mes parents étaient commerçants, donc je savais ce que c'était, et je me suis dit, je vais être dans ce métier où on voudra de moi. Et j'ai fait la rue Blanche en classe de résine mise en scène. Je voulais faire de la mise en scène de théâtre, et en fin de compte j'ai été facilement reçu alors que j'aurais été acteur. Pourquoi? Puis je me disais, mais j'ai un cheveu sur la langue, pourquoi on prendrait moi?
Il vous a complexé ou pas, ce chevêtement?
Jamais.
Même gamin? Parce qu'aujourd'hui c'est votre marque de fabrique.
Mais jamais.
C'est votre élégance aujourd'hui.
Mais jamais. Franchement, jamais. Parce que quand je voyais Darry Cole, je me disais, Darry Cole, il a un sacré cheveu sur la langue. Hein. Et je me disais, mais c'est grâce à Darry Cole, je me disais, tout le monde l'aime. Pourquoi on m'aime? Et le problème, c'est que dans les petites classes, j'étais à Oulgat, c'était quand même une école assez populaire, avec des gamins un peu, dont les parents venaient demander le crédit à ma mère, qui avait quand même l'épicerie où on accordait les crédits. Ouais. Les fins de mois étaient difficiles. C'est pour ça que j'ai ce côté social, parce que j'ai entendu ma mère parler avec des clientes, et être en conflit avec mon père, quand on arrête de faire du crédit, ils vont nous... Parce qu'elle sentait que les gens n'y arrivaient pas. Et donc j'avais ce côté-là, et comme j'étais le fils de l'épicière, et on me respectait un peu à l'école, et on me protégeait. Du reste, quand on voit des photos d'école, vous savez, dans les classes, je suis toujours à côté du caïd. Donc j'étais protégé par les caïds. Et donc, j'ai pas eu de problème de se moquer de moi. Et du reste, le premier amour que j'ai eu, c'était un petit garçon, l'amour sentimental, qui était un petit Parisien, qui était arrivé à l'école. Il s'appelait Jean-Marc Pré, je me souviens. Il ressemblait pour moi à Steve McQueen dans Au nom de la loi. Et il est arrivé, et tout le monde se moquait de lui parce qu'il était Parisien, tête de veau quand même. J'entendais ça. Hein. C'est dans les années 60. Maintenant, on n'en est plus là. Et tout d'un coup, je l'ai défendu. Je suis devenu copain avec lui. Je l'aimais beaucoup. Et lui, après, quand mon livre est sorti, Le Casino d'hiver, donc je parle de lui dans mon livre, une dame m'a dit, écoutez, je le connais, maintenant il est à La Haye. Et je lui racontais, donc on s'est téléphoné, mais de 10 ans, il y a 5 ans, 7 ans. Et on s'est parlé, et il m'a dit, moi je me souviens qu'on faisait du cinéma dans la cour de récréation. Je tenais la caméra, et toi tu faisais l'acteur. Je m'en souvenais plus du tout. Mais donc voilà.
Et aujourd'hui, il s'est passé quelques décennies, vous êtes le pape du cinéma, on peut le dire quand même. Est-ce que... À quel moment vous avez pris conscience de votre puissance?
Le pape, je trouve que ça ne va pas trop, le pape.
Pourquoi? Vous n'aimez pas le pape?
Moi, j'aimerais bien d'être le descendant de Brialy, en fin de compte, parce que c'est lui que j'aimais beaucoup, qui m'a vraiment fait connaître plein d'acteurs, plein de vieilles actrices. J'ai rencontré Arletty grâce à lui, j'ai rencontré plein d'autres. Donc moi, j'aimerais mieux être le petit frère de Jean-Claude Brialy que le pape.
Hein. En tout cas, il est puissant, le petit frère de Jean-Claude Brialy, aujourd'hui.
Oui, enfin, il est puissant, faut pas non plus exagérer, hein. Je suis pas patron de la Gaumont, dit pâté. Je suis quand même un artiste et un producteur indépendant, protégé par un groupe Media One, c'est vrai, où je me sens assez rassuré. Mais moi, l'argent n'a jamais été mon mobile, en fin de compte.
Non, c'est pas pour vous parler de l'argent, c'est pour vous parler du rapport aux autres. Est-ce qu'aujourd'hui, les personnes qui vous côtoient vous aiment pour ce que vous êtes, Dominique Besnéard, ou pour ce que vous représentez, et ce qu'éventuellement vous pouvez faire pour eux? Est-ce que ça complique les relations sociales?
Alors moi, je vais vous dire, Thomas, avec le temps, quand j'étais agent, on m'aimait plus pour ma fonction et peut-être aussi pour ce que je pouvais faire. Maintenant que je suis producteur, on peut venir me voir en me disant j'ai envie de travailler avec vous, j'ai envie de... Si j'aime pas le sujet, je leur dois rien. Quand on est agent, on a une responsabilité quand même. On a à s'occuper de carrières de gens, on a la confiance. Il faut pas commencer à dire ce qu'on pense à tout le monde, sinon ça se retourne contre nos talents. Donc là, je me sens beaucoup plus... En fin de compte, si on vient me voir, c'est qu'on m'apprécie. Et moi, en fin de compte, vous savez, j'ai des amis très fidèles. Moi, je suis Sandrine Bonner, c'est ma petite sœur de cinéma, j'ai encore vu hier, je garde... Mais avec le temps, moi, je vois moins de gens pour voir des gens. Mmh. Je vois vraiment des gens que j'aime, j'ai plus envie de m'obliger... Parce que quand on est agent, on est quand même obligé de rencontrer des gens. On peut pas se permettre de se dire, oh, j'ai pas envie de sortir ce soir voir ce spectacle. Alors qu'il y a des gens des acteurs dont on s'occupe qui sont dedans ou des acteurs qui nous ont demandé d'aller les voir. Je suis quand même beaucoup plus libre.
Mmh. Je vais vous faire écouter une musique de film et vous allez me dire ce qu'elle évoque pour vous.
Trois petites notes de musique ont plié boutique bah ouais. Au creux
et
du
c'est le film avec Gabin et c'est le film sur le Moulin Rouge.
Ah, c'est l'été meurtrier.
Non, il y a aussi Moulin Rouge.
Moi, je voulais vous parler de
trois petites notes de musique, c'est aussi dans Moulin Rouge.
Mais j'ai beaucoup de choses à apprendre de vous. Mais moi, je voulais vous parler de l'été meurtrier.
Alors, dans l'été meurtrier, mais c'est tout pour moi, c'est quand même, c'est comment? Dans trois petites notes de musique, c'est dans le Moulin Rouge et c'est chanté par Cora Vauquer.
D'accord. On peut parler de l'été meurtrier?
Ben oui, bien sûr. Okay.
Parce qu'on parlait de casting, je crois que celui de ce film n'a pas été un très bon souvenir pour vous. Entre Valérie Caprisky et Isabelle Adjani, ça a été compliqué.
Non, je vais vous dire, le seul truc, c'est que j'ai commencé à travailler avec Jean Becker, et puis on voulait une inconnue. Donc, c'est-à-dire, à l'époque, j'ai dû travailler 6 mois, aller partout pour trouver cette héroïne. La première personne à qui on a pensé, c'était Lio. Peu de gens le savent.
Ah ouais.
Parce qu'elle avait fait Banana Split et elle était une Lolita, parce que dans le scénario, c'est une Lolita. Hein. Et puis, je sais plus, à l'époque, elle a dit non. Mauvais truc, quand même.
Mauvais choix.
Alors, moi, on m'a dit après que c'était Alain Chamfort qui avait tout fait pour qu'elle le fasse. Peut-être, j'en sais rien. Un jour, j'ai posé la question à Alain Chamfort qui m'a dit, c'est pas vrai, mais enfin bon. On va pas refaire, c'est pas très grave. Et alors, ensuite, on a cherché des inconnus. Je suis allé en Italie. Alors moi, j'ai adoré Jean Becker, travailler avec lui, parce qu'il avait un coup de soleil tous les jours. À chaque fois que je présentais une comédienne, c'est elle. Je m'y attendais. Attendons, on va continuer à il cherchait. Et c'était Japrizo qui avait écrit le scénario. Et ensuite, donc, on a proposé à Valérie Caprisky. Alors d'abord, on a proposé à Isabelle Adjani, qui a dit non. Elle tournait à l'époque un film en Amérique du Sud avec Carlos Saura, je crois. Et tout d'un coup, donc elle a dit non. C'était un peu bête qu'elle dise non. Mais je pense qu'elle n'avait pas envie de se déshabiller. On a proposé à Valérie Caprisky. Et entre-temps, moi je suis... Ça a duré tellement cette préparation que je suis allé sur un autre film. Et après, j'ai su que Adjani était revenue. Sur le moment, j'étais pas très content par rapport à Valérie Caprisky parce que je me suis dit... Elle avait rien fait, Valérie Caprisky. Elle avait dû faire Les Hommes préfèrent les grosses, dont j'avais fait le casting. Elle s'appelait Valérie Chérès. Et elle s'appelait pas encore Caprisky. Et après, donc, j'en ai un peu dit quand même, c'est un peu dur. Et en fin de compte, elle a fait le film de Zulatsky, La Femme Publique. Ouais. Donc, quelque part, tout est rentré dans l'ordre.
C'était dur de dire non à un comédien ou une comédienne. C'est des moments difficiles, ça, dans la vie de...
c'est toujours difficile de dire non. Vous voyez, par exemple, sur 10%, on a hésité entre deux actrices. C'est Camille Cotin qui a fait le rôle. L'autre était très, très bonne aussi, mais c'était... je peux pas le dire. Mais, non, je peux pas le dire. Parce que bon, cela dit, elle travaille beaucoup. Non, et c'est vrai que je me suis dit, bon, ben, c'était quand même, c'est difficile, mais c'était deux visions différentes. Très deux visions différentes. Et peut-être que c'était plus juste que ce soit Camille.
Mmh. Est-ce que ça se façonne? Est-ce que ça se fabrique une star de cinéma?
De moins en moins. Mmh. Parce qu'il y en a plus de stars de cinéma. Parce que moi,
c'est pas un peu vieux con, ça, de dire il y a plus de stars de cinéma?
Il y a plus vraiment de stars de cinéma. C'est je suis désolé. Est-ce que vous voyez une star de cinéma dans une chambre d'adolescent? Est-ce qu'il y a une photo d'un acteur à part des Américains? Non, c'est ça le problème.
Comment vous l'expliquez, ça?
Parce que le problème, maintenant, les acteurs, à l'époque, quand il y avait Delon, Belmondo, Deneuve, Romy Schneider, ils sortaient 2 films par an, il n'y avait pas tous les passages télévision, donc il y avait un événement de se déplacer pour aller voir un acteur. Maintenant, ils sont un peu gratuits, mais pas gratuits de talent, gratuits en présence. Donc c'est à un moment donné, on n'a pas la même attente. Et je dis que c'est vrai, malheureusement, bon, pour moi, il y a Dujardin, il y a quand même quelques acteurs, mais il y a quand même plus. Moi, je vois, quand je vais dans je vais pas souvent dans des chambres d'adolescents, mais des enfants de mes amis, je vois Mbappé,
ouais.
Mais je vois des sportifs quelques chanteurs, mais il n'y a pas... Par exemple, je vois beaucoup Clara Luciani.
Oui.
Mais il n'y a pas vraiment de... Les acteurs de cinéma ne sont plus... Nous ont plus fait rêver comme nous.
Parce que
comme
ça s'est banalisé, parce qu'on les voit trop, parce qu'ils parlent trop.
Ben voilà ce que je dis, parce que c'est banalisé, parce que... Voilà, parce que tout ceci... Enfin, puis les réseaux sociaux, on sait tout de tout le monde. Avant, il y avait un secret. Moi, déjà, pour trouver l'adresse d'un acteur quand j'étais gamin, fallait trouver pour trouver l'adresse ou lui écrire. Je veux dire, mais c'est aussi ça, tout ce côté un peu mystérieux n'existe plus. Mais ça veut pas... En plus, ce qui est dommage, c'est que les acteurs jouent de mieux en mieux. Les stars qui sont là sont des grands acteurs, ce qui n'était pas forcément le cas à l'époque. Et donc, il n'y a pas d'imposture, mais n'empêche que c'est vrai. Mais je parle pas comme un vieux con, je parle comme quelqu'un qui malheureusement aime tellement les stars que je pense qu'il y en a de moins en moins.
Vous avez cité Mbappé. Est-ce qu'il a un potentiel de star, Mbappé?
En tout cas, moi je suis pas du tout intéressé par le football, mais lui je le regarde.
Ouais.
Parce que d'abord je le trouve intéressant. Quand on les entend, de temps en temps, les sportifs sont pas toujours, ils ont pas toujours inventé le fil à couper le beurre. Et lui, je le trouve brillant. Il y a comme un saint. Il y a quelque chose d'un peu divin, je trouve, ce garçon. Et puis, on sent, alors j'espère que c'est pas du calcul, mais on sent une bonté, on sent qu'il connaît son époque.
Mmh.
Et ça, alors peut-être je serais très déçu, mais à l'image, il est quand même...
Vous auriez envie de le mettre derrière une caméra?
On lui a proposé d'être dans 10% et il était pas libre, mais enfin, il a été très correct. Il a fait, enfin, c'est pas lui qui a répondu, mais sa famille. Et voilà, on a pris Tony Parker, qui est formidable aussi.
C'est sûr. Vous avez la réputation d'être dur. Est-ce qu'elle est justifiée, cette réputation?
Non, pas, je suis pas vraiment dur. Je suis peut-être, oui, non, je suis, non, dur, pas. En tout cas, je suis pas méchant, mais je peux être dur, oui. Je peux être dur. Mais dur, pas pour faire dur, parce qu'il y a un moment donné, faut n'en pas tout accepter et aussi de pas essayer d'être trop compromis, surtout dans notre époque.
Ouais.
Donc il faut essayer peut-être de se dire, mais moi je suis pas d'accord. Et voilà, être pas d'accord, ça ne veut pas dire qu'on est dur.
Mais on peut ne pas être d'accord avec vous.
Mais bien sûr.
On crame pas sa carrière quand on se fait baisser à radeau.
Non mais là, ça c'est souvent des acteurs qui ont pas eu, qui pensent que c'est à cause de moi qu'ils ont pas fait carrière. C'est aussi à cause d'eux, hein. Et quand les gens, moi par exemple, Richard Anconina, je suis passé à côté de lui, hein. Jean-Pierre Bacri, je suis passé à côté de tous les deux. Je les ai pas à l'époque quand je faisais du casting. J'ai pas aidé Richard Anconina et pourtant il voulait, plus quel film, voulait faire Diva, mais c'était pas du tout pour lui. Il m'en a voulu. Très longtemps, il m'en a voulu. Et puis, à un moment donné, j'étais chez Armédia, et son agent était parti, et il a dit, mais en fin de compte, faudrait que j'aille chez Dominique, mais il me prendra jamais parce que je crois qu'il m'aime pas. Et il est venu, on est resté 15 ans ensemble.
Et Bacri, vous lui avez dit après que vous étiez planté?
Bacri m'en a voulu beaucoup, et il a fallu qu'on fasse un film ensemble. Parce que Bacri, le problème de Bacri, c'est que j'avais vu au théâtre faire de la tragédie. C'était peut-être pas là où il était le mieux. Et en fin de compte, il est formidable dans la comédie. Mais on en a parlé après. Mmh. J'ai produit un film avec lui. Et je me souviens que le premier soir, on était à Gavarnie, dans les Pyrénées. Et donc, je savais qu'il avait accepté le film. Et je lui dis, il faudrait qu'on parle même dès ce soir. Et puis, on a mis tout à plat, et puis voilà. Mmh. C'est un acteur génial qui manque beaucoup. Hein.
Et les critiques, est-ce qu'elles vous touchent ou est-ce que vous avez votre carapace par balle?
Les critiques, j'en ai pas vraiment, on me fait pas vraiment des critiques. Ouais. Je suis pas sur scène, je suis pas dans... Vous savez, à l'époque, les agents, ils étaient quand même assez protégés, parce que quand ils conseillaient à un acteur de faire un film, que le film marchait pas, on se disait pas, dis donc, l'agent, il est nul, hein.
Ouais.
On se disait, l'acteur, pourquoi il a fait ce film?
Non, mais à un moment, on a pu entendre, tiens, Besnéard, il a pris la grosse tête. Je crois que Nathalie Baye vous l'a fait comprendre un jour.
Non, Nathalie Baye, elle m'a dit, mais quand j'étais agent, elle m'a dit, à un moment donné, tu papillonnes trop, fais attention, regarde-toi. Mais c'était pas du tout, c'était au contraire pour me protéger. Mais elle, je peux accepter qu'elle me dise des choses parce que je sais que c'est ma famille. C'est comme Sandrine Bonnaire ou Béatrice Dalle, elle ne me fait aucun reproche. C'est plutôt moi qui lui en fais. Mais donc voilà. Non, mais quand les agents étaient quand même assez protégés. Je vais vous dire, un agent, si quand t'as un film, film. Alors peut-être que lorsqu'un film marche très bien et que l'acteur n'a pas voulu le faire au début, que l'agent a poussé pour qu'il le fasse, on dit pas, on dit généralement l'acteur ne dit pas c'est mon agent qui m'a poussé. C'est bien que moi je trouve que dans les Césars récents, on dit souvent je remercie mon agent.
Oui, c'est plus prudent. C'est comme Michel Drucker à la télé, il vaut mieux toujours le remercier. Vous dites Nathalie Baye, Sandrine Bonnaire, c'est votre famille. Et votre vraie famille, est-ce que le cinéma vous l'a mangé finalement? Est-ce que vous avez sacrifié un peu votre vie personnelle pour le cinéma ou pas? Vous êtes très discret sur le sujet.
Mais cela dit, je suis pas allé faire des photos avec mon fiancé, non, c'est pas du tout le truc. Mais moi, j'aime pas. En fin de compte, je suis assez pudique. Ouais. Moi, j'ai ma vie. J'ai jamais dit ce que je n'étais pas. J'ai pas inventé d'histoire. Mais j'ai pas envie d'être le porte-parole de tout ça. Ça m'intéresse pas. Je trouve que quand je vois des fois des présentateurs de télé, tant mieux, raconter leur vie, en même temps c'est peut-être un courage, mais à un moment donné il faut s'arrêter quand même. Tout d'un coup on est héroïque parce qu'on dit que on aime les garçons, ça va quand même, c'est pas Jeanne d'Arc, on n'a pas sauvé Orléans.
On va marquer une première pause musicale, le temps d'écouter votre choix, Dominique Bessner, et vous êtes arrêté sur une chanson de Nicolas Perrac. Alors j'avoue que ça m'a un peu surpris. Pourquoi ce choix et quel type?
Parce que à Oulgat, j'ai fait du rangement. Ouais. Et j'ai tombé sur tout, parce que moi, je jette rien, tous mes CD. Et j'ai réécouté l'œuvre complète de Nicolas Perrac. Et je dis, alors, c'est tellement injuste ce métier dans la chanson. Parce que moi, j'étais très ami de Michel Delpech qu'on a écarté. Mmh. Il a fallu qu'il soit mort pour qu'on dise que ses derniers albums étaient bien. Et j'ai réécouté Nicolas Perrac, mais c'est un type qui a été très fort. Les années 77-80, il y a que des tubes. On l'entend jamais. Donc j'avais envie, et je suis content qu'il passe sur France Inter. Peut-être ça va donner des idées.
Je pars, Nicolas Perrac.
S'en va, destination Bahia, Buenos Aires ou Cuba. Ah, prends soin de l'opéra, de la rue des Lilas, pire que cette fois. Je ferme la valise, destination Zagreb via Venise. Je souffle la bougie, je me dessine une folie, les doigts croisés sur l'infini. Je dis salut, et peut-être qu'un jour je serai de retour. Qui peut me dire comment l'exil vient aux errants.
Thomas Soto. France Inter. Hors piste.
Hors piste, je pars Nicolas Perrac. C'était le choix de Dominique Besnéard. Dominique Besnéard, partir, tout quitter. Vous avez déjà eu, vous, la tentation de Venise ou pas?
Non.
Non?
Pas du tout. J'ai pas trop les voyages. Moi, j'aime les voyages à travers l'écriture, à travers la lecture. Mais moi, j'aimais bien aller, en fin de compte, toujours l'amour du théâtre, aller à Londres voir des pièces, à New York. Voilà, d'aller au théâtre. En fin de compte, quand je vais à New York, mais maintenant, à cause du Covid, j'ai l'impression que c'est un autre monde. mais j'allais passer 4 jours et je voyais plein de pièces, plein de comédies musicales. Et moi, je me souviens que quand je suis arrivé à Paris les premières fois, j'adorais aller voir les affiches des théâtres et de voir les acteurs, de voir dire tiens. Je suis un très fort sur les lieux des théâtres, les théâtres, l'histoire des théâtres. Et quand je vais à Londres, à New York, je fais ça. Me plaît.
Vous savez qui vous me faites penser?
Non.
Ça va vous surprendre, hein?
Non.
À Thierry Roland. Parce que lui, il ne pensait que foot, tout à travers le foot. Et vous, j'ai l'impression que vous ne pensez qu'à travers le cinéma et le théâtre, tout à travers le cinéma et le théâtre.
Mais j'ai rencontré.
Les voyages, les destinations, les rencontres, les loisirs, les.
Non, mais cela dit, j'aime bien voyager. Là, je pars en Afrique bientôt. J'adore l'Afrique. Je me sens bien en Afrique. Mais voilà. Non, mais je remets pas dans un état en me disant, moi, d'abord, je peux pas rester au bord de l'eau, en maillot de bain, c'est impossible. J'ai jamais fait ça. Déjà, quand j'étais gosse, à Oulgat, j'allais jamais au bord de la mer. Et là, j'ai une maison à Oulgat, je regarde la mer de loin, mais je m'approche même pas. Donc, je vais vous dire, je suis pas du tout. Mais en même temps, j'aime la nature, mais je suis pas quelqu'un par exemple, j'aime bien les pays du Nord. Je me sens bien à Copenhague, en Suède, en Norvège. J'aime pas trop la chaleur.
À propos de musique, il paraît que vous êtes dingue de la bande originale du film 37.2 le matin.
Oui.
Elle raconte quoi?
Parce que c'est d'abord une histoire incroyable, ce 37 degrés de le matin. C'est quand même un des films de ma vie, hein. Un des castings où je suis tellement heureux. En plus, Jean-Jacques est parti. Et franchement, j'ai été. C'est Jean-Jacques Benex qui m'a d'abord toujours fait confiance depuis même son premier court-métrage, Le Chien de Monsieur Michel, où je jouais dedans. Après, j'ai fait Diva, La Lune dans le Caniveau. J'étais un de ses grands collaborateurs. Et il me faisait confiance, qu'il savait que j'aimais les acteurs. Et avec lui, je pouvais me permettre, c'est vrai qu'il me faisait confiance. Et 37 degrés le matin, 37 degrés le matin, quand on voit le film, tous les acteurs sont ex-Darmon, qui était un très bon acteur que j'avais au théâtre, mais il n'était pas encore une vedette. Ouais. Parlons pas de... Donc Jean-Hugues, il avait travaillé avec Chéreau, il avait fait des films quand même. Du reste, on l'avait trouvé trop jeune au début. Donc et c'est en même temps... Et puis alors Jean-Jacques, il avait envie de le prendre, mais comme il avait fait le film de Besson, vous savez, ses metteurs en scène, comme m'avait dit Margot Capelier, le problème avec les metteurs en scène, il aime que les metteurs en scène japonais ou ceux qui sont morts. C'est vrai. Et c'est vrai qu'il y a toujours un truc... Et donc, au début... Et Jean-Hugues, après, il l'a vu, il a été d'accord. Et puis Béatrice aussi. Puis c'est une histoire incroyable. Il y a Clémentine Célarier, il y a Lindon, c'est vraiment un film.
C'est une bande-annonce de ce qu'a été le cinéma les années suivantes, finalement.
Oui, c'est un film générationnel, en plus, hein. Parce que vous imaginez qu'il avait fait plus de 4 millions de spectateurs. Qu'est-ce qui fait 4 millions de spectateurs dans une histoire d'amour? C'est plus possible, ça.
Béatrice Dalle, il paraît qu'elle a votre surnom tatoué sur le corps.
Voilà, celle avec le mien, ça va, mais les autres, elles pouvaient peut-être pas être obligées de mettre autant de tatouages.
Oh, vous êtes jaloux,
de temps en temps, j'ai fait un cauchemar en disant qu'elle s'était mise là un tatouage sur le front. Donc je me dis, mais elle va plus tourner. Je me suis réveillé, heureusement que c'était un cauchemar. Et je lui ai dit ça, je t'en supplie, les cauchemars, c'est toi te tatouant le visage. Non, mais Béatrice Dalle, c'est une histoire d'abord très forte, parce que c'est mon amie. Et je trouve que ce qui est incroyable, c'est comment elle rebondit à chaque fois. Elle est passée par des moments assez durs, mais à cause d'elle. Hein. C'est là où elle dit, c'est de ma faute. Hein. Et que là, elle est toujours là, qu'elle fait du théâtre, que c'est une icône. Moi, j'adorais Anna Karina. Et un jour, Anna Karina, elle m'a dit, tu sais, celle avec laquelle j'aimerais tourner, j'aimerais faire ça, sa mère, c'est Béatrice Dalle.
Qu'est-ce qui a fondamentalement changé entre le cinéma de l'époque 37.2 et le cinéma d'aujourd'hui, Dominique Besnéard?
J'espère que les spectateurs vont venir. Hein.
Ouais.
et que les spectateurs vont venir. C'est ça le problème. Alors là, depuis quelques jours, il y a, grâce à Maigret, grâce au film aussi de Stéphane Brisé, mais le problème, c'est que le public qui va au cinéma, le public après 40 ans, 50 ans, il est plus venu depuis que la Covid est là.
Mais en termes de connexion à la société, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Est-ce qu'il sent toujours les époques? Est-ce que
peut-être que le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de films, mais pas. Moi, je suis content. On dit la littérature, c'est bien. On se dit, mais tous ces livres qui sortent, c'est important qu'ils sortent. Parce que des fois, il y a un grand romancier qui sort ou un grand créateur. Mais le moment, je me dis, mais voilà, c'est le fait de la rapidité. On est dans un monde où on n'a pas le temps d'installer les choses. Si à un moment donné, on rate le truc. Par exemple, vous voyez le film sur le troisième âge à la maison de retraite, il est bien tombé. On peut pas mieux tomber avec toutes ces. Eh bien, au lieu de se dire non, on va pas aller voir un film qui parle en maison de retraite alors qu'on voit tous les scandales. Ben, je pense que ça l'a servi. Comme à l'époque, La Guerre des Polices, dont j'avais fait le casting, mais Vera Belmont avait produit. Eh bien, Mérine s'était fait assassiner 3 jours après sortait le film, un carton énorme. Donc il y a un moment donné. Donc ça installe, mais sinon c'est compliqué de s'installer, de pouvoir donner,
parce d'avoir le temps de laisser le temps de s'installer.
Et on n'a plus le temps. Ouais. Et c'est ça qui est un peu compliqué.
Est-ce que les plateformes comme Netflix sont en train de sauver ou de tuer le cinéma aujourd'hui?
Moi, je pense que pour les plateformes, pour le moment au cinéma, je suis pas très convaincu des séries, des films, à part le film avec Leonardo DiCaprio et puis l'année dernière Sorrentino. Il y a pas quand même des films de. Alors maintenant, ils ont racheté les collections de Truffaut, donc la même chose qu'on peut voir sur Salto. Hein. Mais je trouve que eux, comme coproducteur, enfin comme producteur de longs métrages, ils ont fait des films populaires, un peu des séries B, mais ils n'ont pas encore fait des grands films. Et peut-être qu'il faut aussi, mais il faut le temps qu'ils s'installent. Et comme ils ont réussi avec la série, peut-être qu'ils vont réussir avec le cinéma.
Mmh. Bon, maintenant on va parler de votre ex. Votre ex, avec qui vous avez eu une belle histoire. C'est à l'époque où vous aviez mis un orteil dans la politique, et ce sont les Guignols qui s'en souviennent le mieux.
Bon, soupette, les fringues, on est bien, sa coiffure, c'est mieux, c'est aéré, c'est complètement hollywoodienne. On a envie de te donner un Oscar.
Merci, Dominique.
T'emballe pas, soupette, on a encore du travail. Pour gagner en 2012, tu vas être confronté à pas mal de choses que tu connais pas. Et le meilleur moyen de faire croire que tu connais tout, c'est de jamais avoir l'air étonné.
Ah.
Parce que pas soupette, t'as souvent l'air étonné, ce sont des faux.
Ah bon?
Voilà, c'est ce que je voulais te dire.
Ça vous fait rire, hein?
Ben oui.
Ségolène Royal dans Les Guignols. Avec vous l'avez soutenu en 2007. On sait que vous êtes fâché depuis.
On s'est pas fâché. On s'est jamais revu parce que bon, il y a.
Comment c'est possible que vous soyez jamais recroisé?
Si une fois j'ai fait un malaise vagal. Je me souviens plus du tout ce qui s'est passé. C'est dans un avion. J'étais avec François Ozon et Sandrine Bonner. On allait soutenir la campagne de Hollande, le dernier voyage. Avant
2012,
c'est moi 2012, et je la vois dans le. Sandrine me dit donc il y a Ségolène sur la droite. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu le temps de passer devant elle. J'ai eu 3 minutes d'absence. Donc non, moi ce que en même temps quand je la vois de temps en temps, elle m'émeut parce que j'ai un fond de tendresse pour elle. Mais je me suis dit à un moment donné. Avoir été si loin, si haut, d'avoir eu la fougue des gens qui l'aimaient et de passer à côté, parce qu'il y a un moment donné, on peut pas, je sais pas comment expliquer, il y a un moment donné, il faut être un peu organisé quand même.
Oui. Vous lui en voulez en fait? De pas être allé au bout de l'aventure.
Non, moi, je lui en veux par rapport à Angoulême parce que on a tout fait pour faire le festival. Et après, je n'ai rien compris. Alors, j'ai appris parce qu'on me l'a dit que il y avait quelqu'un autour d'elle qui a été, qui nous détestait, Jean-Pierre Mignard et moi, qui nous a écartés. Certainement un de ses compagnons. Moi, je ne sais pas, j'ai jamais vu. Et tout d'un coup, et donc, elle nous a écartés. Mais c'est pas.
Mais si elle passait dans le couloir, là, vous vous planqueriez ou vous auriez la voir?
J'ai revu il n'y a pas très longtemps, elle est venue me dire bonjour, et on s'est dit bonjour, mais en même temps, ça va, c'est pas non plus, j'étais pas l'organisateur de la campagne, je l'ai aidé très modestement, je lui présente, mais surtout, en fin de compte, j'étais assez proche d'elle après, après qu'elle ait perdu, et c'est là où j'ai vu sa solitude, et que là, j'ai été très proche d'elle après, où elle avait rencontré plein d'artistes et tout ça, mais bon, moi, je lui en veux pas du tout. Ce qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, c'est dommage, voilà, c'est que maintenant, les gens rient un peu. Un jour, elle soutient, le lendemain, elle soutient.
On est obligé d'être de gauche quand on fait du cinéma?
Non, mais moi, j'ai toujours été de gauche, mais enfin, centre-gauche. Pas non plus mélenchoniste.
Là, vous allez choisir un candidat, par exemple, ou pas?
Bah oui, je sais pas encore qui. Il n'y a pas beaucoup de choix.
C'est-à-dire?
À part Emmanuel Macron, je vois pas pour qui on peut voter. Hein. Quand même, les autres, c'est de l'amateurisme entre la violence et le. Mais l'autre fois, j'ai vu Zemmour. Quand j'ai entendu le discours, j'ai dit mais attendez, on est Pétain, c'est Henriot, tout Doriot, toute la clique. Vous rendez compte les mots qu'on entend. Et ça passe comme ça, comme une lettre à la poste. Mais c'est d'une violence. Il y a la haine dans ses propos. Et je me suis dit, mais voilà, quand on voit les secondes guerres mondiales, voilà, les pétainistes, Doriot, toute cette clique là, donc j'ai même oublié les noms. Henriot, Doriot, il y en avait un troisième aussi.
Et est-ce que chez Emmanuel Macron, ce que vous préférez, c'est pas sa femme, Brigitte Macron? Vous êtes assez proche, je crois.
Non, je suis pas proche, mais je l'apprécie, je la vois souvent avec Lynn Renault, et c'est une femme que j'aime bien parce qu'elle est à l'écoute et que, voilà, et qu'elle est pas dans la représentation, elle est pas dans la posture, en tout cas, elle est venue à Angoulême, ce qu'elle a fait à Angoulême. Elle est venue défendre l'enfance en souffrance. Elle a fait un grand débat avec Florence Aubenas au Palais de Justice par rapport au film de Jacques Doyon qui s'appelle CE2, et elle a été incroyable. Et moi, j'ai beaucoup aimé son comportement avec les gens.
Il y a les Césars, moi je vous propose de décerner les Besnéards ce soir. Vous êtes prêts, Dominique Besnéard? Alors c'est parti, lançons la cérémonie. Le Besnéard du meilleur film de votre vie est attribué à
La règle du jeu.
La règle du jeu.
De Jean Renoir, c'est quand même... En plus, il faudrait le revoir maintenant par rapport à tout ce qui se passe. C'est comme du Marivaux, c'est la comédie humaine, c'est Balzac et Marivaux, et ça parle des gens dans les cuisines, ça parle de la bourgeoisie, des nobles, et voilà, et qu'en fin de compte, est-ce que l'homme est vraiment gentil avec son voisin, je sais pas.
Le Besnéard de la meilleure actrice?
Marlène Dietrich.
Besnéard du meilleur acteur?
Jean Gabin. C'est normal, ils ont été ensemble. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas mieux. Jean Gabin, j'ai une passion pour Jean Gabin. Quand je le regarde, parce que tout le monde dit Delon, mais moi, je vois une photo de Jean Gabin à 30 ans, il est sublime.
Le Besnéard du meilleur discours de remerciement au César?
J'en ai eu tellement... En tout cas, c'était pas les Césars, pas cette année, mais l'année dernière.
Hein. Et vous avez pas aimé non plus. Hein,
ah, c'était une horreur. Ouais. Je me suis dit, mais attends, j'ai pensé à Brialy toute la soirée, moi. Mais là, il serait monté, il les aurait giflés tous. Hein. Parce que lui qui aimait tellement le spectacle, l'histoire des gens, l'histoire des acteurs, on a l'impression qu'ils avaient jamais vu un film avant.
Faut laisser sa chance à Marina Foy, ce qu'elle dit, j'aimerais bien les représenter un jour.
Je sais pas, moi je suis pas d'accord. Alors qu'elle est dans un très bon film actuellement.
Le Besnéard de votre plus grand regret lié au cinéma?
Je sais pas, j'ai pas vraiment de regret, moi.
On va pas l'attribuer, celui-là.
Non, j'ai pas de regret. J'ai rencontré Fellini, j'ai retravaillé avec Polanski, que j'adorais. J'ai travaillé avec Spielberg, j'ai travaillé avec Jacques Doyon, avec Piala, avec Claude Berry, avec Pierre René Defer.
Alors du coup, le Besnéard de la plus belle rencontre, il est pour qui?
Marlène Dietrich au téléphone.
Ah, vous avez eu Marlène Dietrich au téléphone?
Pendant un mois. Elle, au début, elle était très désagréable. On aurait dit que c'était une boche qui a rué. Et après, elle a été adorable.
Et on va finir avec le Besnéard de l'acteur ou de l'actrice, le ou la plus pénible.
J'aime pas.
Hop.
Non, mais non, j'en ai pas. Franchement, la plus pénible, ça a été, même si c'est celle que je préfère, de temps en temps, elle m'a gonflé. C'est quand même Béatrice Dalle. Hein. Voilà. Donc je peux le dire parce qu'elle m'a quand même vraiment gonflé. Pour faire des cauchemars, qu'elle ait une cicatrice,
un tatouage
sur le front, ça veut dire. Hein.
Bon, vous êtes venu avec un objet, c'est la tradition dans Hors Piste. Qu'est-ce que vous avez choisi?
DVD. J'ai pas été chercher très loin, mais bon, c'est pas du tout que j'en avais un dans ma bibliothèque en trop. Honnêtement, je dis la vérité, j'avais la règle du jeu que j'avais acheté, et parce que je trouve ce film, il faut toujours le revoir. Et malheureusement, je l'ai laissé dans le taxi.
Ah bon.
Et heureusement que j'en ai toujours un avec moi. C'est l'intégrale de saison 1 à 4 de 10%.
Ah.
Et n'oubliez pas que vous êtes dans la saison 4, épisode 4.
10 voilà. Secondes dans un rôle muet. Il y aura une saison 5, on sait qu'il y aura.
Non, il y aura une finale, comme dirons, une finale à best de 2 heures qu'on est en train d'écrire.
Ce sera le point bien. Final vraiment.
Ouais, parce que là, il va sortir bientôt en avril la série anglaise, qui a un remake et qui est vachement bien, parce que les Anglais, au niveau des séries, n'oubliez pas qu'ils ont fait The Crown et donc c'est à ce niveau-là.
Hein. Et est-ce qu'il y aura Sophie Marceau alors dans le final?
Peut-être que dans le final, il y aura Sophie Marceau et Catherine Deneuve. Elles pourraient faire une scène ensemble. Hein.
Ah.
En tout cas, nous, on aimerait, on l'a pas. C'est pour ça que je me méfie toujours de dire dans le journal le lendemain, on rêve de Jodie Foster et on a déjà Kevin Kline.
Ah bah c'est pas mal quand même déjà. Quelle est la plus belle leçon que vous a donné le cinéma, Dominique Besnéard?
De se dire que tout ça peut s'arrêter du jour au lendemain.
Ouais.
Et voilà, et que à un moment donné, on peut faire une faute, on peut être injuste, on peut être passé à côté de quelque chose d'important. Faut toujours se dire que moi j'ai quand même dans les, vous m'avez dit les qualités aussi, qui est pas un défaut, qui est une réalité. Moi, j'ai toujours des doutes. C'est important d'avoir des doutes. Et souvent, les gens n'ont pas ces doutes.
Et si vous deviez couper un morceau au montage dans votre vie, ce serait lequel? Qu'est-ce que vous feriez de différent?
Le jour où j'ai eu honte, mais je dirais pas. Rigolez. Si. Mais attends, un jour j'ai eu une honte. J'ai fait quelque chose d'honteux. Voilà.
Lié à quoi?
Non, j'ai pas envie de le dire.
C'est vrai?
Non, voilà. Mais c'est vrai, j'ai jamais eu de l'impression d'être honteux.
C'est il y a longtemps?
Ouais, il y a longtemps. Sur un film, j'ai eu honte.
Et qu'est-ce que vous ressentez quand le film s'achève, quand le générique de fin défile sur un écran?
Alors justement, ça tombe très bien, je suis très en colère contre en ce moment toutes les téléfilms, les génériques, on n'a même pas le temps de voir le nom des acteurs.
La télé, c'est vrai, on accélère.
Non mais ça, c'est inadmissible. Moi, je vais en fait faire un truc au CSA, enfin c'est plus le CSA, maintenant je sais plus comment ça s'appelle. Mais moi, je vous dire, j'ai été à Luchon, il y a plein de téléfilms, je connaissais pas les acteurs, j'ai pas le temps. Et moi, j'ai toute ma jeunesse, j'ai appris les génériques par cœur. Et donc ça, vous rendez compte, quelqu'un qui est en province, qui aime le cinéma, qui veut connaître le nom des acteurs, il ne peut pas.
Vous restez assis jusqu'à la dernière note du générique dans la salle?
Voilà, bien sûr. Ouais.
Quel est votre dernier coup de cœur au ciné, le film qu'il faut aller voir là, une fois qu'on a fini?
Alors moi, je le dis, c'est La Vraie Famille, qui est un petit chef-d'œuvre avec une grande actrice, Mélanie Thierry. Et le film est vraiment, il a eu le prix d'interprétation pour elle à Angoulême. Et puis là, il y a un autre film qui va sortir bientôt qui s'appelle la Petite Nature de Samuel Tess. C'est deux films incroyable.
Et ben voilà, au moins on a les conseils ciné pour les jours qui viennent. Merci beaucoup Dominique Besnéard d'être venu passer une heure dans Hors Piste. Merci également à Marie Mérier à la réalisation, Charlotte Leloup à la préparation, Claire Tesser à la mémoire vive et à Florian Dorimini aux manettes. Prochain Hors Piste dans une semaine, ce sera toujours à 17h, toujours sur France Inter. Et puis c'est la tradition dans l'émission, le dernier mot revient toujours à l'invité. C'est donc à vous Dominique Besnéard.
Et ben j'étais très heureux d'être en tête à tête avec vous parce que je vous apprécie depuis BFM. Et moi, vous voyez, si j'étais casting de présentateur ou de journaliste télé, vous pourriez me demander est-ce que moi je les repère, ceux qui sont bons.
Coupé. Merci beaucoup, Dominique Besnéard.
C'est vrai.